Merci d'écouter RFI. 13h en temps universel. Il est 9h à Washington et à Port-au-Prince.
Anne Contner.
Dernière partie d'RFI Midi sur le continent américain. Nous appellerons notre correspondant en Argentine, où doit s'ouvrir d'une minute à l'autre le procès de 7 membres de l'équipe médicale de Diego Maradona, la star du foot décédée il y a 4 ans, seul alors qu'il était censé être sous surveillance médicale en permanence. Les juges vont essayer de comprendre pourquoi dans les prochaines semaines et les prochains mois. Notre dossier du jour consacré au vice-président américain et à l'importance qu'il joue dans l'administration américaine. On sera aussi en ligne comme chaque semaine avec notre confrère haïtien Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Press. Et puis l'actualité des Outre-mer françaises, Benoît Ferrand. 45 jours après le crash aérien sur l'île de la Dominique, les corps de 4 victimes seront rapatriés ce mardi en Martinique.
4 dépouilles mortelles que des techniciens métropolitains ont eu beaucoup de mal à récupérer. Nous serons en direct avec la Dominique, enfin presque en direct tout à l'heure.
À tout à l'heure.
RFI Midi.
Mais d'abord le journal. Bonjour Juliette Pietraszewski.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Et à la une, le Pakistan où plus de 450 passagers d'un train sont retenus en otage.
Dans le sud-ouest du pays, par un groupe séparatiste armé du Baloutchistan, cette province du pays borde l'Afghanistan et l'Iran. Le groupe séparatiste a revendiqué donc l'attaque du train et la prise d'otage. On retrouve tout de suite Sonia Ghezali, notre correspondante à Islamabad. Bonjour Sonia.
Bonjour, bonjour à tous.
Sonia, la prise d'otage est toujours en cours. Est-ce que vous avez plus de détails pour l'instant ?
Alors oui, on sait que le train est donc à l'arrêt dans une zone très montagneuse de la province du Baloutchistan depuis 16h heure locale. Ça fait environ 2h maintenant. Le conducteur est blessé. Aucune information sur l'état des passagers. Selon les informations données par les autorités locales, des hommes armés ont détruit la voie ferrée avec des explosifs, ce qui a forcé le train à s'arrêter. Des échanges de tirs auraient suivi. La BLA, le Front de Libération du Baloutchistan, a revendiqué l'attaque et a fait savoir qu'il n'hésiterait pas à s'en prendre aux passagers en cas d'opération des forces de sécurité. Les informations sont à... Pour l'instant, il semblerait que les forces de sécurité soient sur place, mais aucun détail n'a filtré pour l'instant. La zone escarpée et rocailleuse est considérée comme un repère de la BLA. La zone peu accessible rend d'ailleurs toute intervention très compliquée. Certains hôpitaux de la région ont été placés en état d'alerte. Le groupe indépendantiste mène régulièrement des attaques généralement dirigées contre les forces gouvernementales, mais en août dernier, il s'était attaqué à des bus de passagers en provenance de la province du Pendjab, tuant 39 personnes après avoir vérifié leur carte d'identité. Les séparatistes baloutches exigent l'autonomie de leur province où la population est l'une des plus pauvres du pays, alors que les sols du Baloutchistan sont riches en hydrocarbures et en minerais.
Les précisions de Sonia Ghezali, notre correspondante en direct du Pakistan.
En Syrie, plus d'un millier de civils tués en quelques jours, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, et la grande majorité étaient des Alaouites.
L'ONG Human Rights Watch appelle les autorités syriennes à poursuivre rapidement les auteurs des exécutions sommaires dans l'ouest du pays. Les violences ont débuté le 6 mars dernier lors d'une attaque sanglante de partisans du régime déchu de Bachar el-Assad, issu de la minorité alaouite, contre les forces de sécurité dans la région côtière de Latakié. Ce sont les pires violences depuis la chute de l'ex-président en décembre dernier. Le président par intérim, Ahmad al-Shara, a appelé ce dimanche à l'unité nationale et a lancé une commission d'enquête indépendante. Elle se dit déterminée à garantir la justice et à empêcher les représailles extrajudiciaires, selon son porte-parole. Ce mardi 11 mars est également placé sous le signe des négociations. À Doha, au Qatar, une délégation israélienne est présente pour donc des négociations indirectes avec le Hamas. Des négociations sur la poursuite du fragile cessez-le-feu dans la bande de Gaza et qui interviennent juste après la coupure par Israël de l'unique ligne électrique qui fonctionnait encore à Gaza. Un acte dénoncé par le Hamas, mais aussi l'Arabie Saoudite, le Qatar et la Jordanie qui appellent la communauté internationale à prendre des mesures.
En parallèle, le forum de défense et de sécurité a ouvert aujourd'hui à Paris.
À l'école militaire de la capitale, en marge de ce dernier, une réunion à huis clos de 5 chefs d'état-major, Allemagne, France, Pologne, Pays-Bas et Royaume-Uni. Franck Alexandre, les Européens se mettent en ordre de bataille pour répondre à une situation internationale qui s'annonce compliquée.
Effectivement, Juliette, le ministre de la Défense néerlandais, Rubens Brinkelmann, a en préambule et en quelques mots décrit l'urgence qui se pose aux Européens. Selon les services secrets des Pays-Bas, il suffirait d'une année seulement à Vladimir Poutine pour redéployer des troupes sur le flanc est européen et se lancer dans une nouvelle invasion. Sébastien Lecornu, ministre français des Armées, a ajouté « Nous ne sommes pas encore en guerre, mais nous ne sommes déjà plus en paix. » Et si la menace russe est une chose, l'imprévisibilité de l'allié américain en est une autre, l'autonomie stratégique est donc sur toutes les lèvres ici à l'école militaire. L'Europe est un croisement, elle doit de toute urgence élargir sa défense, la financer, repenser les plans de l'OTAN si les Américains ne sont plus là, d'où la réunion des chefs d'état-major cet après-midi, produire plus d'armes, accélérer donc dans tous les secteurs industriels et militaires. L'Europe de la défense fait l'unanimité, Juliette, désormais on attend les ordres.
Franck Alexandre, en direct du Forum de défense et de sécurité à Paris, a noté qu'Emmanuel Macron doit s'exprimer en fin de journée.
On va parler économie à présent. Hier, en Chine, des droits de douane de 10 à 15% sur une série de produits agricoles américains sont entrés en vigueur.
C'est une réponse de Pékin aux barrières douanières imposées par Washington, 20% sur tous les produits chinois entrant aux États-Unis. Les représailles chinoises sont donc limitées, mais elles inquiètent les agriculteurs américains, à commencer par les producteurs de céréales et de soja. Ce sont les plus importantes exportations des États-Unis vers la Chine, Justine Fontaine.
Près d'un quart de la production américaine de soja part vers la Chine, un marché irremplaçable pour les agriculteurs des États-Unis. Depuis lundi, ils sont visés par 20% de droits de douane en tout, en comptant les taxes chinoises qui étaient déjà en vigueur auparavant, ce qui rend plus cher leur soja là-bas.
Si ça continue, beaucoup de fermes vont disparaître.
Caleb Ragland et sa famille sont agriculteurs depuis 9 générations. Ils cultivent 1600 hectares de soja, de maïs et de blé dans le Kentucky et ils président l'association américaine des producteurs de soja.
Nous sommes très inquiets. Les droits de douane risquent de faire baisser les prix et de faire plonger nos bénéfices dans le rouge.
Les cours ont d'ailleurs déjà commencé à diminuer. De quoi rappeler de mauvais souvenirs à Caleb Ragland, car lors du premier mandat de Donald Trump, la guerre commerciale avec Pékin avait fait perdre aux États-Unis sa place de premier exportateur de céréales et d'oléagineux vers la Chine.
Nous n'avons jamais récupéré nos parts de marché.
Pékin s'est davantage tourné vers l'Amérique du Sud, au point que 70% du soja acheté par la Chine à l'étranger vient maintenant du Brésil.
Les précisions de Justine Fontaine.
C'était il y a 5 ans, face à la propagation alarmante des cas de Covid et devant l'inaction des gouvernements, l'Organisation mondiale de la santé qualifiait la situation de pandémie.
Depuis, ce virus a provoqué la mort de plusieurs millions de personnes dans le monde. Elle a donné lieu aussi à un flot de fake news et à de la désinformation scientifique. Un phénomène qui représente un danger pour la santé, notamment en cas de nouvelle pandémie. Stéphane Gaudry est professeur de médecine intensive, réanimation à l'hôpital Avicenne, et ne cache pas une certaine inquiétude.
Pour moi, ce qui est majeur, c'est qu'un certain nombre de personnes qui ont raconté n'importe quoi, c'est une grippette, il n'y aura pas de deuxième vague, j'ai trouvé le traitement, discours anti-vax, etc. Ces gens-là sont des criminels. Et que ça, on n'a pas encore résolu complètement le problème. Il n'y a pas eu suffisamment, on va dire, de personnes qui ont été poursuivies en justice par rapport à ça, parce qu'il faut bien avoir conscience que ces gens-là sont responsables d'une partie des morts du Covid. Et quand on voit sur les réseaux sociaux que ça persiste et que ça risque de prendre de l'ampleur, puisque aux États-Unis maintenant, avec le ministre de la Santé américain, les contre-vérités sont considérées comme des vérités, je pense que c'est ça qui est le plus inquiétant en fait. Et on le sait très bien, le charlatanisme, le complotisme, c'est ce qui peut nous mettre dans le mur si ça revient.
Des propos recueillis par Valérie Cohen. RFI, il est 14h09 à Paris. Tout de suite, le rendez-vous d'Haïti et des Amériques avec vous, Anne.
Merci Juliette Pietraszewski. On prend d'abord la direction de l'Argentine.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Où s'ouvre aujourd'hui un procès très attendu, celui de 7 membres de l'équipe médicale de Diego Maradona. La star du football argentin décédé il y a 4 ans, seul alors qu'il était en convalescence et censé être surveillé 24 heures sur 24. Les innombrables fans de Diego Maradona veulent savoir ce qui s'est passé.
Il y a beaucoup de choses à éclaircir sur ce qui s'est passé. Moi, ça m'a brisé le cœur car il était notre messie, notre représentant, notre monument. Il n'y aura plus jamais personne d'aussi grand et aussi humble que lui.
C'est vous qui avez recueilli ces mots d'un supporter Théo Conscience. Bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Buenos Aires où l'audience doit commencer d'un instant à l'autre.
Oui, les filles de Diego Maradona, Dalma et Janina, viennent d'arriver au tribunal pour cette première audience qui est diffusée en direct sur Internet et à la télévision. Les 7 accusés aussi sont arrivés. Ils encourent entre 8 et 25 ans de prison pour homicide simple avec dol éventuel. Autrement dit, le parquet estime que les membres de l'équipe soignante de Diego Maradona savaient que ce qu'ils étaient en train de faire pouvait entraîner la mort de leur patient, mais qu'ils n'ont rien fait pour l'empêcher. Le parquet s'appuie notamment sur un rapport d'expertise de 2021 qui avait estimé que Maradona avait été abandonné à son sort par l'équipe médicale qui suivait sa convalescence après une neurochirurgie. Des audios filtrés à la presse ces dernières années semblent aussi indiquer que les médecins auraient cherché à isoler l'idole argentine de sa famille. Les accusés, eux, se renvoient la responsabilité les uns les autres, affirment que Diego Maradona refusait de prendre ses médicaments et rappellent qu'il souffrait de cirrhose, d'insuffisance rénale, d'insuffisance cardiaque et de multiples addictions après une vie d'excès. Alors, Maradona était-il seulement soignable? Qui prenait les décisions? Pourquoi était-il en convalescence dans un lieu manifestement inadapté sans défibrillateur? Plus de 120 témoins vont se relayer à la barre jusqu'au mois de juillet pour tenter de répondre à ces questions.
Théo Conscience, en direct de Buenos Aires, on suivra donc ce procès avec vous. L'Argentine encore à la une de votre revue de presse. Anne Verdaguer, bonjour.
Bonjour.
Les journaux reviennent aussi sur les inondations dans la ville portuaire de Bahía Blanca et parlent de la chronique d'un drame annoncé.
Oui, Clarine raconte que dans un rapport datant de janvier dernier, deux chercheurs argentins indiquent que lors de précipitations similaires à Bahía Blanca, il y a eu le même nombre de morts, et cela sur une période de 30 ans. Les inondations de vendredi dernier ont fait au moins 16 morts et une centaine de disparus. Bahía Blanca, qui est à 600 km au sud de Buenos Aires, a été dévastée et n'était pas prête malgré ses avertissements. Elle est située dans un territoire au relief perfide, ajoute le journal, entre une chaîne de montagnes et la mer. Elle est donc un réceptacle pour ces précipitations, comme une plaine inondable. L'action humaine et le dragage de la côte pour faire passer des plus gros bateaux pour le commerce a fait le reste, sans parler du changement climatique, phénomène qui touche toutes les parties du monde à présent.
Anne Verdaguer, vous restez avec nous. On vous retrouve dans quelques instants pour la suite de votre revue de presse. Pour l'heure, on va se pencher sur la presse haïtienne.
RFI Midi. Gonaïve, 90.5 FM.
Nous sommes en ligne avec le directeur de l'agence Alter Presse. Bonjour Godson Pierre.
Bonjour Anne.
Vous revenez en une de votre site sur les armes saisies à Mirbalet dans le département du Plateau central lors d'une opération au cours de laquelle deux personnes ont été lynchées.
Eh bien, ces individus ont été interceptés par une brigade de vigilance à Trianon dans le Plateau central à l'est du pays. Selon des informations qui nous sont parvenues, ils faisaient partie de 4 occupants d'une fourgonnette voyageant des Gonaïves au nord vers Port-au-Prince avec des armes et beaucoup de munitions. La police explique que les deux personnes ont été tuées par des membres de la population en colère. Selon nos informations, les deux autres passagers ont eu le temps de prendre la fuite. La police a procédé à la saisie donc de 3 armes à feu, dont un fusil d'assaut et plus de 10 000 munitions dissimulés dans des boîtes de vêtements usagées.
Et cette saisie d'armes, elle s'inscrit dans une série d'opérations du même type ces derniers jours.
Parmi ces opérations, celles menées également par des autorités dominicaines de l'autre côté de la frontière, elles ont saisi la semaine dernière une cargaison illégale d'armes et de munitions au port de Haïna, non loin de la capitale Santo Domingo, en provenance de Miami et en transit vers Haïti. Cette opération a permis de confisquer 23 armes à feu, dont un fusil de calibre 50 mm, 36 000 projectiles de divers calibres et plusieurs chargeurs. Tout ça pour continuer à alimenter une crise sécuritaire qui ne fait que s'aggraver en Haïti.
Un contexte extrêmement dégradé et pourtant les autorités de transition maintiennent pour l'instant leur calendrier électoral. Elles prévoient donc la tenue d'un référendum constitutionnel en mai prochain, puis un premier tour des élections générales en novembre. Et pour y parvenir, Godson, elles comptent sur le soutien des pays d'Amérique latine.
Une délégation de haut niveau dirigée par Frinel Joseph, membre du Conseil présidentiel de transition, est en effet en déplacement cette semaine au Pérou et au Mexique. Il est accompagné de membres du Conseil électoral provisoire, du comité de pilotage de la Conférence nationale et de la réforme constitutionnelle, ainsi que de l'Office national d'identification. Cette mission, facilitée par l'Organisation des États américains et les Nations unies, vise à renforcer la coopération internationale en faveur de la réforme constitutionnelle en cours et à mobiliser un soutien accru pour l'organisation des élections générales en Haïti, des processus jugés pour le moment très incertains.
Merci Godson Pierre, directeur de l'agence Alterpresse. On vous retrouve la semaine prochaine sur cette antenne et d'ici là, on peut vous lire sur votre site alterpresse.org.
Anne Contner.
La suite de votre revue de presse, Anne Verdaguer, et ce témoignage poignant à la une du Washington Post d'un homme qui a subi la violence des cartels au Mexique et dont la demande d'asile a été refusée aux États-Unis.
Oui, l'homme qui a souhaité garder l'anonymat par peur des représailles est arrivé à la frontière avec une chemise bien blanche, bien repassée, des chaussures en cuir, bien cirées. Dans son sac, les preuves de ce qu'il avait subi, l'enlèvement par les cartels, son enfermement dans un placard, les actes de sodomie. Avec ses cicatrices toujours visibles sur son visage, ses poignets et ses jambes, il s'est avancé sur le pont qui relie la ville de Ciudad Juárez au Mexique à la frontière américaine. Il a tenté de convaincre les officiers de l'immigration présents sur place que sa vie en dépendait, mais c'était quelques jours seulement après l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Plus personne ne passait déjà. Le droit d'asile et le droit de protéger ceux qui sont persécutés dans leur pays est inscrit dans l'ADN des États-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, rappelle le journal, qui craint que l'arrivée du milliardaire à la Maison-Blanche n'empêche ceux qui ont des raisons légitimes de venir dans le pays. Les tribunaux sont déjà débordés et cela peut prendre des années avant qu'elles ne rendent leur décision. En attendant, les persécutions se poursuivent.
Autre affaire qui pourrait bien se terminer devant les tribunaux, celle d'une entreprise américaine de construction installée au Mexique sur une aire protégée. Dans une lettre envoyée à la présidente mexicaine, 35 sénateurs américains réclament la reprise de ses activités dans le cadre de discussions engagées avec Donald Trump sur les droits de douane.
Oui, il s'agit de l'entreprise Vulcan, dont l'un des terminaux est installé dans le Yucatan. En 2024, l'ancien président mexicain Andrés Manuel López Obrador a décidé de suspendre ses activités et de déclarer le lieu une zone naturelle protégée, rappelle la Jordana. La présidente Sheinbaum a répondu que l'entreprise n'avait pas été expropriée, mais que la société exploitait des zones en dehors de celles légalement attribuées, causant de graves dommages à l'environnement. L'avocat et défenseur de l'environnement, Quetzaltzab, témoigne de ces dommages constatés par les personnes vivant à
Les principaux concernés, ce sont les riverains et ils disent « ça suffit, l'entreprise a suffisamment puisé dans le sol, on ne veut pas que ça recommence. Des maisons ont été abîmées par les explosions et puis il y a les maladies. Aucune étude sérieuse n'a été menée sur les conséquences des émissions de poudre lors des explosions de dynamite et cela inquiète les gens, car il y a beaucoup de cas d'asthme, beaucoup de personnes sont mortes aussi. Donc pour les riverains, vraiment, ça suffit.
Si la gente ya es un gran basta.
Voilà des propos recueillis par Ubaldo Bravo de la rédaction en espagnol de RFI.
Anne Verdaguer pour votre revue de presse à retrouver sur internet rfi.fr. On reste aux États-Unis pour notre dossier du jour.
Monsieur le Président, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts.
Le vice-président américain qui s'en prend frontalement au président ukrainien à la Maison Blanche. Vous vous en souvenez sûrement, la scène s'est déroulée il y a une dizaine de jours devant les caméras du monde entier et elle a sidéré tout le monde. Jamais un dirigeant invité à Washington n'avait été traité de la sorte. Et les propos humiliants tenus par J.D. Vance ce jour-là sont d'autant plus mal passés que le vice-président américain avait déjà heurté les Européens un peu de temps auparavant. Lors de la conférence sur la sécurité organisée à Munich, en Allemagne, il avait ouvertement courtisé les partis d'extrême droite et asséné surtout que la démocratie était menacée en Europe. Ce type de provocation n'est pas réservé à Elon Musk. On le voit donc avec J.D. Vance, celui qui est surnommé le bulldog de Donald Trump. Donald Trump. Achim Lippold, vous vous êtes penché sur son rôle, sur sa place au sein de l'administration américaine. Et ce qui frappe en premier lieu, c'est la visibilité dont il dispose à la Maison-Blanche, très différente de celle de ses prédécesseurs.
Oui, absolument. Anne, qui se souvient par exemple de Kamala Harris sous Joe Biden ou même de Mike Pence, le numéro 2 de Donald Trump lors de son premier mandat? Traditionnellement, effectivement, les vice-présidents s'effacent derrière leur chef, évitant la lumière des projecteurs pour ne pas lui faire de l'ombre. Mais ce n'est pas le cas de J.D. Vance, nous explique l'historienne Ludovine Gilly.
Si on remonte un peu plus loin dans l'histoire, on peut penser à Richard Nixon. Quand il était vice-président d'Eisenhower, il avait un peu un rôle de chien d'attaque qui permettait de poursuivre les opposants de manière assez basse. Et ce qui permettait au président, à Eisenhower, d'être davantage sur la retenue et de se positionner au-dessus de la mêlée. Là, on voit un J.D. Vance ces derniers jours, ces dernières semaines, qui a multiplié les provocations, les déclarations intempestives, mais on ne peut pas vraiment dire qu'il fasse cela pour permettre à Donald Trump d'être au-dessus de la mêlée. On a vraiment, dans le cas de Donald Trump et J.D. Vance, un J.D. Vance qui renforce le type de rhétorique, le type de comportement du président. En cela, le rôle, le positionnement de J.D. Vance au sein de cette administration est différent de celui qu'on peut trouver de la part des vice-présidents dans les décennies précédentes.
Et pourtant, J.D. Vance n'a pas toujours été un fervent soutien de Donald Trump. Harim, il l'a même qualifié d'idiot et comparé à un possible Hitler américain.
Oui, mais ça, c'était avant la première élection de Donald Trump en 2016. À l'époque, J.D. Vance se fait connaître avec son roman autobiographique Hillbilly Elegy, devenu un best-seller même porté à l'écran. Il vient d'un milieu très modeste, a servi dans l'armée, étudié le droit, puis fait carrière dans le Silicon Valley. Et c'est là qu'il se lie d'amitié avec l'investisseur Peter Thiel qui financera sa campagne pour le Sénat en 2021. Certains estiment d'ailleurs que ce milliardaire n'est pas étranger au virage idéologique de J.D. Vance, devenu ensuite un fervent national conservateur et un allié de Donald Trump à partir de 2016.
Si on prend le J.D. Vance depuis son virage pro-Trump, on a un corpus cohérent sur le plan idéologique autour des valeurs familiales. En France, on pourrait rappeler travail, famille, patrie, ça colle bien, autour de valeurs familiales conservatrices. Également autour de notions anti-immigration, de pureté nationale, une volonté de se replier sur la sphère nationale américaine, de protéger les intérêts des États-Unis. Mais ça va plus loin que ça, puisque les États-Unis, par la voix de J.D. Vance, tournent aussi le dos avec, par exemple, les déclarations de Munich, à une alliance des démocraties occidentales contre les totalitarismes.
J.D. Vance qui met donc en œuvre la rupture diplomatique prônée par Donald Trump, ce qui fait de lui une figure incontournable à la Maison-Blanche. Mais quelle est sa relation avec l'autre poids lourd de l'administration Trump, Elon Musk?
Alors officiellement, Anne, les deux s'entendent bien, même s'ils défendent des visions différentes. J.D. Vance incarne, on l'a entendu, donc le courant national conservateur, tandis que Elon Musk représente une forme de techno-libertarisme. Lors des premières semaines du mandat de Donald Trump, Musk était omniprésent, mais depuis son discours à Munich, c'est J.D. Vance qui semble avoir pris l'ascendant sous le patron de Tesla et de SpaceX. Alors comment ces deux courants vont-ils coexister à l'avenir? C'est une grande inconnue, estime Ludovine Gilly.
C'est la grande question. C'est-à-dire qu'on a deux courants qui sont partiellement complémentaires et partiellement en rivalité. Ils vont se retrouver sur une partie des choses qu'ils défendent. En revanche, sur certains sujets, il y aura forcément des frottements. Et c'est peut-être à l'issue de tels frottements qu'on verra éclater certaines portions de l'administration Trump. J.D. Vance, quelque part, est une figure intéressante parce qu'il est à la fois porteur des idées nationales conservatrices, autour des valeurs familiales, autour de, du rejet de l'immigration, autour de la place de la religion et de la morale dans la société. Mais il a aussi cette influence de Peter Thiel qui montre une perméabilité aux arguments des technolibertaires. On peut se demander comment l'articulation de ces deux courants va évoluer au fil du temps, et notamment comment Donald Trump va arbitrer entre les deux.
En tout cas, une chose est sûre, Anne, pour l'instant, Donald Trump ne voit pas encore un J.D. Vance, son possible successeur, un journaliste de Fox News qui lui demandait il y a quelques jours s'il comptait soutenir son vice-président pour la prochaine présidentielle. Eh bien, Donald Trump a répondu sèchement non, avant d'ajouter « mais il est très compétent ».
Notre dossier du jour, merci Achim Leipold.
RFI, la radio del mundo.
Al inicio de esa emisión, el volcán de fuego nuevamente entró en erupción con fuertes explosiones.
L'information fait la une des journaux télévisés au Guatemala. Le volcan de Fuego est entré en éruption et près d'un millier de personnes ont été évacuées par précaution. Les écoles étaient toutes fermées hier dans la localité d'Alotenango, dans l'ouest du pays. Aucune victime signalée, contrairement à l'éruption dramatique qui avait fait 215 morts et autant de disparus en 2018. Toujours au Guatemala, la justice a décidé de renvoyer en prison le journaliste José Rubén Zamora, 68 ans. Le fondateur du journal El Periódico avait été arrêté en 2022 après la publication d'articles sur des affaires de corruption impliquant l'ancien président Diamatei. Et son journal avait dû fermer l'année suivante alors qu'il se trouvait en détention. Depuis octobre dernier, il était assigné à résidence en attendant un nouveau procès contre lui. Et il est donc de retour en prison depuis hier. L'actualité des Outre-mer françaises avec nos confrères. Première, Benoît Ferrand, 45 jours après le crash aérien sur l'île de la Dominique. Les corps de 4 victimes doivent être rapatriés tout à l'heure en Martinique.
4 dépouilles mortelles que des techniciens envoyés spécialement de métropole ont eu beaucoup de mal à récupérer, l'épave du petit avion étant restée accrochée au flanc d'une falaise. Correspondance ce matin en Dominique de Franck Edmond Mariette pour la première Martinique.
C'est ici, à l'office John Terrest à Saint-Joseph, dans le nord de la Dominique, que se déroulent les formalités d'usage avant le rapatriement des corps. 45 jours après de longues collaborations entre les autorités dominicaises et françaises qui ont travaillé de concert pour mener à bien cette opération. Avec moi, le consul honoraire de la Dominique, Madame Nathalie Roland, je crois que les équipes ont travaillé durement pour pouvoir mener à bien cette mission.
Oui, ça a été très, très important et puis très émouvant. Très émouvant. Les familles sont venues, elles ont pu voir les corps de leurs bien-aimés. C'est émouvant pour eux, c'est émouvant pour moi, c'est émouvant pour toute la Dominique.
Le retour vers la Martinique ?
Tout est prêt, quasiment, ce sera fini dans quelques heures et les familles pourront commencer leur deuil.
Les funérailles sont prévues durant cette semaine en Martinique.
Actualité martiniquaise suite avec cette rencontre à Paris entre le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et le président de la collectivité territoriale Serge Letchimy. Au menu, si l'on peut dire, les ravages causés par le narcotrafic. Pierre-Yves Honoré.
Serge Letchimy a expliqué à Bruno Retailleau que la Martinique est en train de se transformer en hub du narcotrafic. L'exécutif a rappelé qu'en 2024, sur les 54 tonnes de cocaïne saisies sur l'ensemble du territoire national, 60% l'ont été sur le seul territoire de la Martinique. Et à Serge Letchimy d'ajouter que cette économie de stupéfiants favorise aussi l'explosion de la violence avec la prolifération des armes à feu. Face à un tableau aussi sombre, Serge Letchimy a fait 11 propositions afin de renforcer immédiatement la lutte contre le trafic et la criminalité. Parmi celles-ci, on retient notamment la création d'une brigade de gendarmerie dédiée à la surveillance côtière, la réquisition des forces armées pour contrôler les points d'entrée sensibles sur le littoral, le renforcement des moyens d'interception en mer, la lutte contre la prolifération des armes à feu, l'installation de portiques à rayon X pour le contrôle des conteneurs sur le port et des passages à l'aéroport. Sans oublier le renforcement des effectifs de la police et de tous les corps qui luttent contre le narcotrafic. Le ministre de l'Intérieur se serait montré attentif. Il a promis d'apporter une réponse écrite.
Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, Benoît Ferrand. Merci à tous d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain, donc, 11h30, temps universel sur RFI.
Ce mardi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Frédéric Lebel.
Peut-on encore célébrer la découverte de l'Amérique au XVe siècle par Christophe Colomb ? Le Mexique demande des excuses à son ancien colonisateur, l'Espagne. Le pays développe surtout une approche moins européenne de son passé.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 19h10 TU, sur RFI.
Ce mardi, vivez sur RFI, la soirée spéciale Ligue des Champions. Cédric De Oliveira.
Revanche immédiate pour le PSG. 6 jours après sa défaite in extremis, le club parisien va retrouver Liverpool à Anfield. Il faudra absolument l'emporter par 2 buts d'écart face au partenaire de Mo Salah pour espérer se qualifier. Liverpool-PSG, 8e de finale retour de la Ligue des Champions. C'est à vivre en direct et en intégralité ce mardi à partir de 19h41 sur RFI.